Bonjour, merci de participer à cet échange de vues. Gwenaëlle, je voudrais te demander d'abord, bien sûr, ce que peut le droit en général, mais d'abord, est-ce que le droit peut nous donner une définition acceptable pour lui de ce qu'est le racisme et de ce qu'est l'antisémitisme, ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre et des difficultés à définir?
Je pense que c'est pas du tout une question qui intéresse le droit. Là, il n'y a aucune définition du racisme. Si tu envisages le racisme comme un ensemble de représentations, ou si tu envisages le racisme comme un ensemble de sentiments, la haine, le rejet, le dégoût, que sais-je, tout ça, c'est des choses qui n'intéressent pas du tout le droit, puisque le droit ne saisit que des comportements extérieurs. Et donc, les reins et les cœurs, ils ne sondent pas les reins et les cœurs, comme on dit. C'est-à-dire que si le racisme, tu l'entends sous cet angle subjectif, ou même idéologique, au demeurant, puisqu'il n'y a pas de délit d'opinion, naturellement, dans une démocratie, la question du racisme est totalement indifférente au droit. Tu trouveras pas de définition juridique du racisme ni de l'antisémitisme. Le droit depuis Beccaria, notamment le droit pénal, ne s'intéresse pas à l'homme, l'individu. Il n'est pas punitif au sens où il punirait un individu. Il sanctionne des actes. Donc, ce que saisit le droit, ce sont des comportements qui sont discriminatoires et dont on peut montrer qu'ils sont directement liés. C'est-à-dire que la raison de la discrimination, c'est la prise en compte du critère protégé. Donc, la prétendue race, comme dit maintenant le droit français, s'inspirant en cela du droit belge, ce qui est une très bonne idée. Donc la prétendue race, lorsqu'elle est au fondement d'une décision que tu as pu prendre, par exemple me refuser un appartement, me refuser un logement, eh bien, ça tombera sous le coup de la loi. Mais tu pourrais fort bien ne pas être raciste, simplement tu as pris ma prétendue race en compte pour prendre cette décision, ça suffit au droit, on n'ira pas plus loin.
J'essaye de me faire l'avocate du néophyte que je suis. Je suis le magistrat devant qui on dit, ce monsieur a arraché son sac à main à cette dame et a accompagné ce geste de propos très très lourdement racistes. C'est une chose. Si je dis, il a accompagné ce geste de propos vaguement racistes, il y aura bien une gradation dans la circonstance aggravante qui sera le racisme de cette personne. Et donc, on n'en tiendra pas compte. Ça, simplement, le fait d'avoir accompagné avec des propos qui n'ont pas leur place dans la vie normale.
Ce qu'on cherche à savoir, c'est si le crime ou le délit a été commis à raison de. Donc, l'intensité de ton mobile, es-tu plus ou moins raciste, n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est uniquement ce lien de cause à effet entre ton comportement et la raison. On dit le chef, le motif appréhendé, donc objectivement pas le mobile. Le critère protégé a-t-il été ou non au principe de ton action? Que ce soit par amour ou par haine, je veux dire, la discrimination positive est justiciable du même type d'analyse que la discrimination dite hostile ou négative. Et je peux prendre un exemple dans un domaine proche qui est celui des propos racistes. Là, c'est moi qui ajoute raciste, parce qu'encore une fois, tu as bien compris, c'est pas dans le droit. Quelqu'un qui a eu, c'est un exemple assez célèbre, un animateur que nul ne soupçonne d'être raciste, avait fait un sketch d'assez mauvais goût, a-t-il été estimé par ceux qui ont poursuivi le sketch, où il imitait Patrick Bruel, qui avait à l'époque une chanson célèbre qui était Casser la voix. Et il a imité donc Patrick Bruel Casser la voix, sauf qu'il avait remplacé le personnage de Patrick Bruel par le personnage de Jean-Marie Le Pen, et il avait transformé les paroles Casser la voix en Casser du noir. Donc, on voyait Jean-Marie Le Pen chanter Casser du noir, et c'était une parodie, pas de Patrick Bruel, naturellement, mais de Jean-Marie Le Pen. Toujours est-il que, est-ce que c'est raciste? Dans l'intention, certainement pas. Mais est-ce que les effets sur le spectateur, on est sur TF1, est-ce que les effets sur le téléspectateur, qui est peut-être pas complètement en mesure, compte tenu de l'instantanéité de la perception qu'il a du sketch, de faire la part des choses. Est-ce qu'il peut y avoir des effets de provocation à la haine? Le juge a dit oui. Et il a été condamné, ainsi que TF1. Et tu vois ici que les mobiles n'entrent pas en ligne de compte. On regarde les effets produits sur la société. Alors, dans le cas des propos racistes, est-ce que c'est délétère? Est-ce que ça peut inciter à détester, en l'occurrence les Noirs? Ou alors, dans le cas de la discrimination, est-ce que ça crée un préjudice à toi uniquement parce que tu es noir? Tu vois, on ne regarde pas, on ne se place pas du point de vue de celui qui agit.
Alors, je voudrais revenir au thème des discriminations que tu connais particulièrement bien. Des discriminations, il y en a de très différentes. C'est une chose de dire « je ne veux pas louer mon appartement à une personne de couleur », c'est autre chose que de dire « bah tiens », enfin que de constater que dans une entreprise, personne n'est de couleur alors qu'on est dans une commune où les deux tiers des personnes ou la moitié des personnes qui habitent autour de cette usine sont de couleur. Et on peut s'interroger s'il y a sur l'hypothèse d'une discrimination systémique, une discrimination qui ne se dit pas. Est-ce que la justice est outillée pour distinguer différents cas, j'ai pris des cas extrêmes, des différents cas de discrimination ?
Les formes de discrimination qui sont actuellement, qui font l'objet de sanctions juridiques, alors après ça dépendra de la branche du droit, ça peut être civil, pénal, il y a différents types de sanctions, sont soit les discriminations directes, où le comportement critiqué est directement fondé sur la prise en compte du critère protégé, c'est en fait une logique de « je ne fais pas ceci ou je fais ceci parce que il est vieux, handicapé, noir ou blanc, au demeurant bien sûr, hétérosexuel ou homosexuel, etc. » Donc il y a un lien direct entre le comportement et le critère. Après, donc ça c'est le premier type de discrimination, la discrimination directe. Et le second type est la discrimination indirecte, où là on essaie de saisir des comportements qui sont fondés sur des critères irréprochables au plan juridique, mais qui, dans les faits, ont des effets sur certaines catégories de population plus que sur d'autres. Alors en général, c'est légal. Voilà, si on demande un brevet de pilote de ligne pour piloter un avion et qu'il se trouve que dans la société en question, les Blancs ont beaucoup plus de brevets de pilote d'avion que les Noirs, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il faut quand même qu'on exige un brevet de pilote d'avion pour piloter un avion. Donc la discrimination indirecte, c'est uniquement le premier temps. Hein, constater qu'il y a un impact, comme disent les Américains, déséquilibré. Dans un second temps, il faut que l'auteur de la mesure échoue à en justifier la nécessité. Ce qui sera parfois le cas. Le type qui exige de parler le dialecte alsacien pour aller planter des pylônes de le long des routes, on voit bien ce qu'il veut faire. Hein, il exige, avec ce critère, maîtrise du dialecte alsacien, il pose ce critère pour écarter ceux qui ne sont pas des Alsaciens, disons, de souche, qui sont nés en Alsace. En revanche, celui qui demande la maîtrise du critère alsacien pour travailler dans une maison de retraite, là, il va peut-être pouvoir établir le bien fondé de son critère, parce que les personnes qui sont dans cette maison de retraite ont oublié le français, ou ne parlent pas le français, ou ne souhaitent pas parler le français, et donc là, ce sera pertinent. Comme critère.
Et celui qui dit je veux une personne de couleur blanche parce pour vendre pour tenir le comptoir de vente de mon magasin parce que mes clients vont fuir si c'est pas une personne blanche compte tenu de ma clientèle habituelle.
Alors là, c'est un sujet extrêmement délicat qui se pose actuellement précisément sur la question du port du voile. Puisque il y a une noir blanc etc. ça ne s'est jamais posé. Il y a des condamnations. On peut pas laisser faire le marché jusque là. C'est-à-dire que c'est vrai, ça s'est produit au demeurant. Il y a une affaire connue qui s'est déroulée en Belgique et qui a été tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne où l'employeur avait dit. Moi, c'est malheureux, je le regrette. Donc, tu vois, il n'est pas raciste, le gars. Enfin, on peut penser qu'il n'est pas raciste. Moi, je le regrette, mais si je recrute des allochtones, comme on dit en flamand, si je recrute des allochtones, les gens n'ouvriront pas la porte. Or, les gens qu'il recrutait, c'était pour aller être peintre, poser des fenêtres, enfin bref, des ouvriers, des artisans qui devaient entrer chez les gens. Donc, il prend acte de cette situation de la société, de cet état de la société, il en tire les conséquences pour son entreprise, parce que c'est quand même sa préoccupation principale, c'est que son entreprise fonctionne, et il dit donc je ne le recruterai pas. Eh bien, ça fait l'objet d'une sanction, il a été sanctionné, l'idée étant qu'il y a du racisme dans la société, qui va payer ? Ceux qui sont victimes de ce racisme ? Ou toi qui n'en peux mais, qui donc va sans doute d'ailleurs avoir un préjudice commercial, ben, pas de peau, ça tombe sur toi, tu vas quand même devoir, le droit exige que tu recrutes tout de même ces personnes au nom du droit qu'ils ont à ne pas être discriminés. Alors, c'est assez réglé pour donc l'origine, l'apparence physique, la race, la prétendue race, etc. Et encore une fois, donc maintenant, ce que je disais, c'est que sur la question du port du voile, le sujet est sur la table. En France, en droit pénal, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, on ne peut pas licencier une salariée au motif que les clients sont indisposés par son voile. En droit pénal, parce qu'on ne prend vraiment pas en compte les mobiles. En droit social, parce que le problème, c'est qu'on a deux voies. En droit social, c'est-à-dire si elle va au prud'homme plutôt que d'aller devant le juge pénal. Si elle va au prud'homme, alors là, le juge social, beaucoup plus proche des préoccupations des employeurs, va se dire, après tout, c'est vrai que pour l'employeur, si la clientèle fuit, il y a un problème. Et nous avons actuellement ce cas que la Cour de cassation a renoncé à trancher et qu'elle a envoyé à la Cour de justice de l'Union européenne, et nous attendons la réponse. La Cour de justice va devoir dire si la bonne marge de l'entreprise, l'intérêt même vital de l'entreprise, dans le cas qui est actuellement tranché, qui est une entreprise qui réalise un tiers de son chiffre d'affaires avec une autre entreprise de Toulouse qui ne veut pas de femmes voilées. Donc, est-ce qu'elle va perdre un tiers de chiffre d'affaires pour garder en emploi la femme voilée, ou est-ce que elle la licencie? Donc là, la question est ouverte. Ça aurait été une noire, ça aurait été une question de couleur de peau, la question ne se posait pas. Mais là, c'est un peu différent parce qu'un voile, ça s'enlève.
Alors, il y a un autre cas sur lequel je voudrais avoir ton sentiment, et là, c'est le dossier de la discrimination positive ou des efforts pour lutter contre la discrimination dans certains cas. Il y a déjà une trentaine d'années maintenant, un patron de société de HLM a été condamné, en gros, je simplifie l'affaire, il avait couvert une façon d'attribuer les logements dans lesquels on faisait des efforts pour panacher un peu. Et donc, il fallait éviter qu'il y ait trop d'Algériens dans un bâtiment parce qu'on voulait qu'il y ait des familles algériennes, italiennes, françaises de souche, comme on dit, avec cet horrible vocabulaire, etc. Et il a été accusé de discrimination parce qu'on lui a dit « Vous n'aviez pas le droit de refuser à une famille algérienne qui demandait un logement dans ces conditions. Vous n'aviez pas le droit. C'est de la discrimination. » Alors que lui, tous ses efforts, c'était pour mettre en place une politique qui était perçue d'ailleurs comme antidiscriminatoire. Est-ce que ce sont des cas fréquents et est-ce que ça justifie une réflexion de type juridique ?
Alors on ne sait pas si ce sont des cas fréquents parce qu'en fait les politiques d'attribution HLM sont, alors non pas opaques, sont peut-être excessives, quoique dans certains endroits on pourrait utiliser cet adjectif, mais en tout cas sont typiquement la résultante de décisions multiples. C'est jamais un individu qui t'attribue un logement HLM. Hein. Donc il y a plusieurs acteurs dans cette politique d'attribution des logements. Dès lors, les condamnations que nous avons ne sont pas nulles du tout. Mais elle porte essentiellement sur la détention par les organismes HLM de fichiers faisant apparaître les origines réelles ou supposées des demandeurs de logement. Typiquement, on va mettre on va surligner, comme a fait M. Ménard avec ses fameux enfants musulmans, on va surligner en rouge ceux dont on pense qu'ils sont noirs, on va souligner en vert ceux dont on pense qu'ils sont asiatiques, que sais-je. Ça, en soi, c'est interdit. Donc, de toute façon, l'hypothèse que tu envisages, selon laquelle il y aurait un panachage volontariste par le gestionnaire de l'office HLM des origines des personnes, est irréalisable dans le respect de la loi, je veux dire. On ne peut pas dire, voilà, moi là je vais me mettre, avec la nationalité si on peut, on peut dire là il y aura tant d'Algériens, puis je ne vais pas les mettre avec des Marocains, je vais les mettre avec des Guinéens. Admettons qu'on peut s'amuser à faire ce genre de petits trucs, c'est complètement illégal, mais je vois l'idée. Ici il y a une difficulté, c'est illégal d'une part, et d'autre part, le discours public pousse à le faire. Donc là on est typiquement dans l'injonction paradoxale. Avec une injonction à faire de la mixité sociale, ce que chacun comprend comme étant aussi une mixité des origines, une mixité ethno-raciale, ethno-culturelle, tout ce qu'on voudra. Et en même temps, si on le fait, on est du mauvais côté de la ligne de la légalité. Donc là, il y a une hypocrisie ou une contradiction interne au droit, aux politiques publiques françaises. Je n'ai pas d'avis sur ce qu'il faut faire.
Le cas dont je parle, ça date donc d'il y a au moins une trentaine d'années, c'était quelqu'un de très respecté, Robert Lyon, qui avait été condamné, alors que parmi les témoins qui étaient venus le soutenir, donc c'est vraiment cette injonction paradoxale, il y avait à l'époque Harlem Désir, à l'époque patron de SOS Racisme, Edmond Maire, grande figure de la CFDT, enfin des gens... Ouais. Qui étaient presque des autorités morales.
Mais on revient à ce que je disais tout à fait au début, c'est que les mobiles de Lyon, on s'en fout complètement. Les mobiles n'étaient pas racistes, là, comme tu l'as bien dit,
mais il
est condamné quand même,
parce
que c'est son comportement qui tombe sous le coup de la loi. On n'envisage que des comportements. La question du racisme ne se pose pas. La discrimination raciale n'a rien à voir avec la discrimination raciste. Parfois elle l'est, souvent elle ne l'est pas.
On a évoqué un certain nombre d'expériences de discrimination. Est-ce qu'on peut proposer une synthèse? Est-ce que tu es capable de proposer une synthèse? Et est-ce qu'on a oublié d'ailleurs certaines formes importantes? Le paysage dont s'occupe le droit.
bien le paysage dont s'occupe le droit, je dirais, dans la matière qui t'occupe, hein, c'est d'une part, et c'est une spécificité française, surtout quand on compare aux États-Unis ou au Royaume-Uni, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment comparer les deux situations, et il est important d'avoir à l'esprit que dans le cas français, il y a vraiment deux blocs, deux pans, qui sont souvent confondus, mais qui obéissent à des logiques totalement distinctes, d'ailleurs à des textes qui sont fondés sur des textes distincts, etc. Il y a le bloc anti-discrimination, c'est-à-dire qui vise des comportements, très largement, hein, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des biens et services, dans toute une série de domaines couverts par le droit de la non-discrimination, on interdit le fait de prendre en compte certains critères de décision. Voilà. Ça, c'est un point. Et l'autre bloc, c'est la lutte contre certains propos, qu'on commence à appeler maintenant la question des discours de haine, puisque donc, il y a encore une fois une américanisation de toute cette discussion, et ce qui est assez paradoxal en l'occurrence, puisque les discours de haine ne sont pas interdits aux États-Unis, ils heurtent directement le premier amendement à la Constitution fédérale, mais dans le cas français, il y a au contraire un droit assez strict qui permet de réprimer l'injure raciste, la diffamation d'un groupe défini par un certain nombre de caractéristiques visées par les textes, et la provocation à la haine, à la discrimination raciale ou raciste. Donc ça, aujourd'hui, je dirais, en termes de contentieux, c'est même pas moitié-moitié, c'est plutôt un tiers, deux tiers, en faveur de la lutte contre les propos. Alors là, c'est une vraie question sur laquelle il faudrait que les sociologues et les juristes, main dans la main, essaient de réfléchir, mais il est très difficile de faire réfléchir des juristes et des sociologues ensemble, mais ce serait important, parce que la question est de savoir si cette répression des certains types de propos, oui ou non, a un effet, non pas seulement sur les représentations, est-ce que ça fait baisser le racisme, l'antisémitisme, mais aussi un lien avec les comportements racistes, antisémites, etc., ou homophobes et compagnie. Donc là, c'est une question ouverte. Au plan juridique, ce sont deux pans du droit complètement distincts, qui suivent chacun leur petit bonhomme de chemin. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas raisonner séparément, en les envisager séparément, ou au contraire les unifier, ou est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'être éclairé par les sciences sociales quand on réfléchit sur le terrain juridique à cette lutte avec les moyens du droit contre le racisme? C'est une question ouverte et qui est assez peu posée parce qu'il se trouve qu'en fait, ce sont vraiment deux spécialités complètement différentes. C'est deux familles différentes du droit et de la réflexion sociologique aussi d'ailleurs.
Alors, pour compliquer tout ceci, le paysage dont on a parlé jusqu'ici ne fait pas intervenir Internet, le numérique.
Si, c'est le même droit. C'est le thème dit de la cyber-haine, mais la lutte contre la cyber-haine, et le gouvernement actuel a mis en place un certain nombre d'institutions, d'organismes spécialement, qui se consacrent spécialement à cela. Parce que les problèmes sont techniques, ne sont pas juridiques en fait. Hein. Juridiquement, on applique les mêmes normes. Après, les conditions de leur application sont tellement différentes, notamment quand l'extrême droite planque ses hébergeurs en Suisse ou ailleurs. Là, on a des grandes difficultés pour attraire devant la justice française l'hébergeur. Et donc actuellement, si je comprends bien, on s'achemine vers plutôt un système de responsabilisation des acteurs du numérique, du monde du numérique, afin qu'ils ils respectent des sortes de chartes de déontologie qu'ils s'appliqueraient à eux-mêmes, comme on voit dans, je ne sais plus quel... Est-ce que c'est Yahoo, est-ce que c'est Google, est-ce que c'est Twitter, j'avoue que je ne connais pas grand-chose, ou dès qu'il y a un sein nu, on le coupe. Donc ils sont capables de faire
Facebook,
des censures.
C'est Facebook
peut-être, bon. Ils sont capables de censurer la circulation des contenus. Simplement, ils ont décidé de viser plutôt les seins que les montages racistes. Bon, c'est un choix. Mais là, je crois qu'au plan juridique français, nous, c'est réglé. Après, la difficulté, c'est la mise en musique, et là, je ne veux pas sous-estimer son importance.
Tu as souvent intervenu dans des débats, non pas sur toutes ces discriminations dont on a parlé, mais sur des, ce qu'on peut appeler des anti-discriminations, c'est-à-dire de la discrimination positive. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous présenter l'état de la question vu sous un angle juridique ?
Vu sous un angle juridique, la question a eu une certaine ampleur, puisqu'elle a quand même suscité deux révisions constitutionnelles au cours des 15 dernières années. Il s'agissait de la discrimination positive à l'égard des femmes, parce que normalement on doit dire entre les hommes et les femmes, mais enfin bon, on est bien d'accord que ça vise quand même plutôt les femmes. D'abord, on a eu une révision constitutionnelle en 1999 pour permettre ce qu'on appelait des quotas par sexe dans le domaine électif, Et aujourd'hui, donc, nous avons soit des listes composées paritairement, dit Chabada, soit des incitations très fortes quand c'est un scrutin uninominal. Et nous avons même inventé le scrutin binominal pour les scrutins départementaux.
C'est homme ou femme. C'est, les candidats fonctionnent deux par deux.
C'est un ticket, oui, homme-femme.
Alors ça, c'est homme-femme. Mais il y a évidemment la question de ce qu'on a appelé la discrimination positive pour des gens qui demandent des quotas, comme on l'a vu dans d'autres sociétés que la nôtre, en raison de leur couleur de peau, de leur origine nationale, etc. Et donc là, on est rentré dans d'autres débats en France qui ont été très très vifs, ou sur les statistiques ethniques, c'est des débats assez proches, je pense. Bon, le droit est-il outillé pour prendre en charge ces débats, ou est-il obligé de suivre en quelque sorte l'évolution, un peu comme ça a été le cas avec les débats à, question de, à propos des femmes. S'il n'y avait pas eu un mouvement général des idées, le droit n'aurait pas évolué. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le droit accepte, rejette, par exemple, des gens qui disent qu'il faudrait obliger les chaînes de télévision à avoir des personnels visibles dans les émissions, dans les films, etc., des personnes visibles qui soient nécessairement de couleur. Ce genre de choses. Autrement dit, est-ce que le droit a quelque chose à dire sur des décisions qui seraient prises ou imposées, de dire il faut qu'il y ait, il y a 15% de personnes de couleur noire dans la société française, ou 10 ou 20, il faut qu'il y en ait 15 ou 10 ou 20 visibles parmi les présentateurs.
Évidemment que le droit a quelque chose à dire, puisque tu envisages une mesure de contrainte, c'est donc une mesure juridique. Donc, ta question, c'est est-ce qu'on peut recourir au droit pour faire ça et comment
Ou est-ce qu'on peut au contraire recourir au droit pour s'y opposer?
Ou pour s'y opposer, mais en toute hypothèse, la question posée est une question qui porte sur une règle de droit, proposée par les uns, rejetée par les autres, mais on ne parle que de droit, alors. Alors, avoir une règle qui imposerait un quota de personnes dites non-blanches, on va dire comme ça, s'agit pas, il y a certains non-blancs qui ne seraient quand même pas non plus dedans. Hein, faut pas, on choisit, il y a des sélections dans les non-blancs. Mais enfin, bref, dans le débat en tout cas. La question, c'est que là, le droit nous ramène quand même un tout petit peu sur terre. Le droit, c'est vrai, faut, pour le reconnaître, c'est quand même c'est assez pragmatique par la force des choses, parce que qui dit règle de droit dit procédure de sanction, dit procédure de mise en œuvre, dit procédure d'ailleurs, tout court. Un juriste se pose toujours la question, bon, ça va marcher comment, on va faire comment, on va le construire comment ce truc-là, on va l'écrire comment, et après on va le mettre en œuvre comment. Hein, c'est beaucoup moins, gazeux que des discussions qu'on peut avoir sur d'autres terrains. Et donc là, la question c'est, primo, comment on définit les bénéficiaires de cette obligation d'emploi? Pour ne pas dire quota, parce que ça fâche tout le monde, donc obligation d'emploi. Comment les définit-on? Deuxièmement, donc il faut des critères juridiques, là, c'est pas... comment les définit-on? Et deuxièmement, quand on estime que quelqu'un prétend au bénéfice de cette priorité d'emploi, et qu'on trouve que ça correspond pas, on pense qu'il fraude, comment on fait? C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être en mesure de lui opposer une définition de son identité qu'il récuse. C'est-à-dire on va lui dire non, tu sais, à notre avis, tu es blanc. Lui dit non, moi je veux bénéficier de la priorité d'emploi pour les non-blancs parce que ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, etc., que sais-je. Et nous, on va lui dire non. Parce que, au terme du, dans la structure, dans le mécanisme dans lequel tu prétends t'insérer, la définition que tu as de toi-même ne correspond pas à la définition que le droit donne de ton identité. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans des trucs pareils? Qu'est-ce qu'on a comme critère objectif, étant entendu qu'il est, à mon avis, exclu dans une société libérale d'imposer une hétérodéfinition qui fasse violence à une autodéfinition des individus ou qui fasse violence ou qui soit en porte-à-faux, excessif, etc. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est ces critères pour l'hétérodéfinition, ces critères objectifs, quels seront-ils? Ils doivent être objectifs, on sait du droit là. C'est pas ce qu'on voit à la télé, ce qu'on perçoit à la télé. J'ai bien vu les critères qui sont mis en œuvre par le CSA, sont des critères sociologiques. J'imagine qu'ils ont pris un panel, ils leur ont montré Super Nanny et ils lui ont demandé « Super Nanny, est-ce que tu la perçois comme tunisienne ?» Ils ont constaté que les téléspectateurs ne percevaient pas Super Nanny comme tunisienne, ils l'ont viré de la perception dans leur étude. Ils ont éliminé Super Nanny des non-blancs, parce qu'elle est perçue comme blanche. Donc voilà, on laisse tomber. Les Tunisiens étant maintenant non-blancs pour des raisons que j'ai pas suivies, mais bon, peu importe. Donc on a besoin d'avoir des critères objectifs. C'est-à-dire par exemple quoi? Lieu de naissance des parents, lieu de naissance des grands-parents, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Dans une société comme la France, si on veut saisir des non-blancs d'origine marocaine, d'origine algérienne, c'est encore pire, le lieu de naissance des grands-parents ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'appellent Thomas Dupont et dont les grands-parents sont tous nés en Algérie. Donc ça, c'est pas lui qu'on veut. C'est pas lui qu'on veut, Thomas Dupont, donc, dans le volant des personnes issues de la diversité. Donc la diversité, les issues de la diversité, le problème, c'est qu'on n'a pas de définition juridique et qu'on ne pourra pas la construire par le haut à partir d'affirmations qui ont une portée identitaire et symbolique hyper forte pour les gens qui sont concernés. Et ce que j'observe, c'est que parmi les promoteurs des statistiques ethniques, parce que ce ne sont pas deux débats distincts, ils sont indissolublement liés. Si tu veux créer l'assiette du quota, par exemple, tu dis, moi je veux un quota de 10% de noirs, il faut que tu me dises que c'est parce qu'il y a 10% de noirs dans la population française. Parce que s'il y a 50% de noirs dans la population française, 10% ça n'ira pas, c'est trop bas. Par contre, s'il y a 5% de noirs, 10% c'est trop. Donc, c'est une ingénierie, là. Donc, la question des statistiques ethniques est liée à l'éventuelle imposition de quotas ethniques. Et ce que j'observe, c'est que parmi les promoteurs de ces quotas ethniques, de ces statistiques ethniques, il n'y en a pas un seul, qui a jamais affirmé, affiché, donné, communiqué sa grille. Le droit français a été construit par les associations, pour ne pas le nommer le MRAP, qui dès 1959 a déposé des propositions de loi. Bon, c'était évidemment été dirigé par un ancien président de chambre de la Cour de cassation, donc ça a donné une certaine assise. Et en 1972, ils ont obtenu le vote de la loi Pleven, avec une impulsion aussi, là aussi, qui venait de l'Union du droit international. Enfin, c'était...
Et la loi Pleven ?
La loi Pleven de 1972.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
C'est la loi qui incrimine le racisme en France. Les comportements racistes. Là, tu vois, j'ai dit incrimine le racisme, j'aurais pas dû, puisque c'est pas vrai qu'on incrimine le racisme, ouais, comme j'avais dit au début. Mais incrimine les discriminations raciales et incrimine les propos racistes. Donc ça, c'est la loi Pleven 1972.
Ça, c'est fondateur,
et
ça.
C'est fondateur. Et cette loi accorde une place importante, même capitale, aux associations, partant de l'idée que... une personne, un individu, lorsqu'il est victime d'une discrimination ou lorsqu'il est la cible d'un jeu raciste, tout seul ne sera impuissant ou se sentira impuissant. Donc le droit d'action des associations a été placé dès 1972 au cœur de tout le dispositif et je dirais à vue de nez que les deux tiers des arrêts ou des jugements ont pour origine l'action d'une association de lutte contre le racisme. Maintenant, donc, vu leur importance dans le dispositif, je crois qu'on doit déplorer la faible professionnalisation des associations en France. Donc, si on compare avec ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Angleterre, puisque, comme je le rappelais, c'est une comparaison standard, c'est le jour et la nuit. Les associations en France comportent peu de juristes en leur sein, ne se donnent pas pour objet premier la défense devant les tribunaux, je ne dis pas exclusif, hein, mais l'objet premier, la défense devant les tribunaux des personnes victimes de discrimination ou de propos racistes. Et ça contribue à fausser pas mal le jeu. Le fait que la pièce maîtresse est une pièce un peu grippée. En outre, elles ont, ces associations, peut-être fait des choix qui n'allaient pas dans le bon sens, qui ont contribué à décrédibiliser ce droit. On voit aujourd'hui dans la presse d'extrême droite, et pas seulement dans la presse d'extrême droite d'ailleurs, la presse de droite tout court, le droit de la non-discrimination est devenu une sorte de tête de turc pour expliquer que c'est le droit des jérémiades, le droit des communautaristes, le droit des... que sais-je... le droit des victimes, qui s'autodésignent comme telles, etc. Donc il y a une forte décrédibilisation de ce droit qui est dommageable pour tout le monde parce que c'est un droit qui défend la société, qui défend l'ordre public. Et cette décrédibilisation, elle est due à des actions en justice qui sont quand même malvenues. À quoi ça rime d'aller attaquer Pierre Péan pour un livre, sur le génocide rwandais, au motif que entre les Hutus et les Tutsis, il aurait pris parti pour un des deux groupes et, à cette occasion, aurait eu des propos à caractère raciste. Est-ce que ça a un sens d'attaquer Edgar Morin pour antisémitisme. Est-ce que, en justice, j'entends, est-ce que là, on ne n'instrumentalise pas et on ne détourne pas de sa finalité initiale un droit et on le gadgetise.
Oui, au lieu d'aller sur des affaires beaucoup plus importantes et peut-être plus nombreuses et plus,
bien entendu,
plus fréquentes dans la société.
Et indépendamment donc des affaires Péan ou Edgar Morin, que dire de Zemmour ? Alors, je ne mets pas du tout dans le même sac que les autres, naturellement, mais à quoi ça rime d'attaquer pour la millième fois Zemmour, qui parfois est condamné, parfois est blanchi, ça dépend de la manière dont est engagé le contentieux, puis du caractère plus ou moins pertinent de ce qu'on avait attaqué. Mais à quoi ça rime ? Est-ce qu'on ne le victimise pas ? On pourrait aussi parler de Dieudonné, ce qui est tout à fait un autre sujet, un sujet encore plus lourd, évidemment. Peut-être que ce droit est en train de se dévorer lui-même. Mais c'est une question qui est très compliquée, hein. J'en disconviens pas. Je vois que l'arme du procès pour les associations est une arme qu'elle répugne parfois à utiliser parce que ça ne paye pas tout de suite, pour dire les choses vulgairement. C'est long, surtout quand on doit aller jusque épuiser toutes les voies de recours, etc. C'est long, c'est technique. C'est donc de lire une décision de la Cour de cassation, on en reparlera.
Donc c'est coûteux. C'est coûteux.
C'est coûteux, moins qu'on ne le croit pas.
Oui, mais il faut du temps.
Mais il faut du temps. Et surtout donc, entre le moment où les faits se sont produits et le moment où on obtient une décision de justice, il s'est passé beaucoup de temps, souvent plusieurs années. Et donc pour une association, ma foi, le caractère pédagogique ou spectaculaire de son action n'est pas du tout garanti. Elles ont un rapport au droit qui est un rapport entièrement centré sur la première phase, à savoir dire à la presse « j'ai attaqué ».
Puis après
Oui, mais ça, je pense qu'il y a des effets pervers à cela. Qu'on mesure de plus en plus avec la montée en puissance de ces associations nouvelles manières, comme le CCIF, comme le CRAN, qui recourent maintenant aussi à l'arme des tribunaux. Et je pense que ça contribue à parcelliser, à éclater ce droit. Et ça nuit, je pense, dans une certaine mesure à son efficacité sociale.